Bien, j'en viens à la présentation donc aujourd'hui de notre conférencier. Il s'agit de François Hacher, qui est né en 1946 à Metz. Il est diplômé d'études en supérieur en sciences économiques, docteur en études urbaines et docteur d'État, S-lettres. Sa carrière est dans l'étude de l'urbanisme, puisqu'il avait commencé par être assistant à l'Institut d'urbanisme de Grenoble au début des années 70. Puis il a enseigné à l'Institut français d'urbanisme, à l'Université Paris 8, qui était ex-Vincennes et maintenant Saint-Denis, où il est toujours professeur. Il a été directeur de l'Institut français d'urbanisme, puis professeur invité dans de nombreuses universités, président de la Conférence nationale pour l'enseignement de l'aménagement et de l'urbanisme, organisme interministériel, et je crois qu'il est, actuellement président de la Commission pour l'amélioration de la qualité scientifique et technique, centre d'études et de recherche sur les transports et l'urbanisme. Bon, c'est l'homme, un des hommes du sujet. Ces publications, je ne les signalerai pas toutes, parce qu'il y a des articles techniques et spécialisés, mais il a publié Métapolis, l'avenir des villes, chez Odile Jacob, en 1995, Le logement en question, continuité et rupture, en 1995, et plus récemment, Le territoire en quête de ville et développement, Le territoire en quête de sens, les éditions textuelles, en 1998, et La République contre la ville, essai sur l'avenir de la France urbaine, aux éditions de l'Aube, en 1998. Il va nous parler aujourd'hui de l'urbanisme face à la nouvelle révolution urbaine. Merci.
Merci. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'urbanisme. Le mot urbanisme est un mot assez récent. C'est une notion récente qui émerge en France, en gros, comme mot, au début du XXe siècle. À l'origine, ce mot visait à désigner une discipline nouvelle ayant pour objet de fonder scientifiquement la conception des villes. Mais dès l'origine, la notion d'urbanisme a été ambiguë. Ambiguë dans la mesure où on a mêlé les exigences de connaissance, d'analyse et les questions de production de la ville. Et on a mêlé les réflexions scientifiques avec les propositions de nature normative. Et de fait, le mot d'urbanisme n'est pas utilisé dans la plupart des pays ou est très peu utilisé. En anglais, par exemple, on n'utilise pas ce mot et on préfère rendre compte de ce que nous, on range dans la notion d'urbanisme au travers d'une série d'autres mots comme les études urbaines, urban studies, ou le design urbain, urban design, ou la planification urbaine, town planning. Et ce qui n'est pas le cas en France, où on a cette notion qui est un peu confuse. Cela dit, s'ébauchent quand même d'autres notions un peu plus précises, dont on ne sait pas toujours si elles appartiennent à ce champ très général de l'urbanisme. On parle par exemple de génie urbain, de projet urbain, de management urbain. On commence à parler aussi d'architecture urbaine, de design urbain. On parle aussi des métiers de la ville, les métiers de la ville étant non pas les métiers de la ville en général, mais les métiers de ceux qui s'occupent plutôt des grands ensembles d'habitat social. Et de même, dans le champ scientifique, des disciplines apparaissent spécialisées dans le champ urbain. On parle d'économistes urbains, de sociologues urbains, de géographes urbains, etc. En fait, nous sommes dans une société qui est de plus en plus urbanisée, et toutes les questions de notre société tendent à devenir des questions urbaines. La frontière est donc pas évidente à définir de ce qui est spécifiquement urbain et de ce qui est une question générale de notre société. Aussi, l'hypothèse centrale que je vais développer aujourd'hui pour vous présenter les savoirs et les savoir-faire contemporains dans l'urbanisme, les dynamiques de transformation de ces savoirs et de ces savoir-faire, est la suivante. L'urbanisme est né d'une révolution urbaine qui a été le résultat et le vecteur des mutations sociétales qui se sont accélérées à la fin du XIXe siècle. Notre société connaît actuellement de nouvelles et profondes mutations qui mettent à l'ordre du jour une nouvelle révolution urbaine. L'urbanisme moderne, issu de la précédente révolution urbaine, se révèle de fait inadapté pour faire face aux exigences contemporaines. Mais émerge déjà un nouvel urbanisme qui diffère assez profondément du précédent, tant par ses objectifs que par ses outils cognitifs et par ses instruments d'action. Nous qualifions ce nouvel urbanisme de méta-urbanisme, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Je vais me servir légèrement d'un support transparent. L'urbanisme, donc, est né d'une seconde révolution urbaine qui a déjà succédé elle-même à une première transformation qui était le passage de la ville médiévale à la ville classique et qui était déjà une transformation très, très profonde. Les pères fondateurs de l'urbanisme, on a l'habitude de ranger dans les pères fondateurs, même s'ils n'ont pas tous parlé d'urbanisme, le mot étant récent, c'est évidemment des gens comme Haussmann, Cerda, Cite, Howard, etc. Et tous étaient vraiment mus par l'idée de l'adaptation des villes à une société industrielle qui s'ébauchait. Les solutions qu'ils ont apportées étaient diverses, mais c'était ça l'enjeu. Une technologie a joué un rôle décisif dans cette période et dans cette approche des villes qui s'est développée au tournant du 19e siècle et du 20e siècle, c'est l'électricité. L'électricité est vraiment la technologie qui a contribué aux transformations des villes. Elle a contribué aux transformations des villes parce que les villes étaient entravées dans leur développement par les transports précédents qui étaient des transports lents. Et l'électricité a permis le tramway, le téléphone, l'ascenseur, le moteur à explosion aussi. Et évidemment, les villes ont changé à ce moment-là radicalement. Les villes ont explosé horizontalement et verticalement. Tout a changé dans les villes d'échelle à ce moment-là, y compris d'ailleurs les inégalités sociales, car vous savez bien, avant l'ascenseur, les pauvres habitaient en haut et les riches habitaient en bas. Et comme on le raconte toujours, c'est plus ou moins vrai, les riches sont montés dans les étages supérieurs grâce aux ascenseurs et les pauvres sont descendus. Mais c'est aussi avec le tramway, le développement des quartiers ouvriers et la différenciation sociale de l'espace qui a changé d'échelle. L'urbanisme de cette époque, jusqu'à une période récente, a été profondément inspiré par les conceptions générales, les paradigmes, les références, les idées qui ont dominé toute cette période. L'urbanisme a été profondément dominé d'abord par les logiques d'ingénieurs qui ont joué un rôle décisif dans tout le système de réseau qui s'est mis en place au tournant du siècle, mais aussi par une idéologie rationnelle et fonctionnelle et par le primat de l'économique, adapter les villes à l'échange, à la production industrielle, au transport des hommes et des marchandises. L'expression la plus aboutie, évidemment, de cette démarche rationnelle, c'est la charte de l'urbanisme réécrite par Le Corbusier, dans laquelle on retrouve toutes les idées de l'époque, en particulier le taylorisme, le fordisme, et des références finalement implicites ou explicites au welfare state, l'état du bien-être, et aux conceptions keynésiennes de fonctionnement de l'économie et de la société. Alors bien sûr, les urbanistes ont manipulé toutes ces idées de façon diverse, mais ils ont puisé dans une boîte à outils qui était constituée, en gros, et qui est encore largement constituée, de plans directeurs et de plans de détail, de zonage fonctionnel, de densité, de prospect, qu'on soit les villes avec des axes et des voies de circulation hiérarchisées, des gares, des grands magasins, des grands hôtels qui servent à organiser la ville, des cités résidentielles, des parcs, et puis bien sûr toute une série d'équipements qui ont émergé un peu à cette époque aussi, qui sont devenus les instruments d'urbanisme, comme l'école, les mairies, les hôpitaux, les théâtres, les églises. Voilà en gros la boîte à outils qui s'est constituée à cette époque, au moment où l'urbanisme se développe comme un champ de pratique, d'analyse et d'action sur la ville. En gros, on utilise encore aujourd'hui à peu près la même boîte à outils. Le problème, c'est que cette boîte à outils est de plus en plus inadaptée aux exigences de la société contemporaine. En effet, la société contemporaine connaît de nouvelles transformations très très rapides, profondes, tant économiques que sociales, techniques, culturelles, spatiales. Beaucoup d'analystes se penchent sur ces questions, les qualificatifs ne manquent pas. On parle de société de l'information, d'économie de la connaissance, de New Age, de e-économie, etc. On est certainement un peu grisé par les succès assez impressionnant, mais en même temps fragile, des valeurs boursières dites technologiques. Mais au-delà de ces manifestations extrêmes et spéculatives, il est clair qu'aujourd'hui se mettent en place un peu partout dans la société de nouvelles manières de faire et de penser, pour lesquelles les nouvelles technologies de l'information se révèlent être des instruments, des bras de levier extraordinairement puissants. Cela dit, ces technologies de l'information, les fameuses TIC, TIC, technologies de l'information et de la communication, ne produisent pas seules les changements. Elles les rendent possibles, elles les accélèrent, elles leur donnent des formes, mais elles sont avant tout, et je crois que c'est important par rapport à ce que je voudrais dire sur l'urbanisme, elles sont avant tout les expressions et les outils de ce qu'on peut appeler la société réflexive. Cette notion de société réflexive est une notion qui est développée en particulier par un sociologue anglais qui s'appelle Anthony Giddens. Et Anthony Giddens définit ainsi la réflexivité. La réflexivité de la vie sociale moderne, c'est l'examen et la révision constante des pratiques sociales à la lumière des informations concernant les pratiques elles-mêmes. C'est un nouvel usage permanent de la connaissance avant la prise de décision, pour construire la décision et après la décision. La réflexivité est en quelque sorte un stade avancé de ce processus de rationalisation longuement analysé par Max Weber. Mais c'est important de souligner cette caractéristique de la réflexivité dans la société, car cela nous permet de prendre un peu de distance par rapport à la notion de société post-moderne, comme s'il y avait une rupture avec la modernité. Si on suit Anthony Giddens et un certain nombre d'autres analystes, on devrait plutôt parler que de société post-moderne, de société surmoderne, ou d'une modernité avancée, d'une hypermodernité, les mots sont nombreux, ou encore, c'est Alain Touraine qui a utilisé cette notion, on pourrait parler d'une basse modernité, comme il y avait un haut et un bas Moyen-Âge. On est entré dans une nouvelle phase de la modernité, et pour comprendre comment on se saisit des technologies de l'information, de la communication, et comment cette vie urbaine va être bouleversée, il faut référer à cette société réflexive, parce que c'est elle qui mobilise les connaissances et l'information, et de ce fait, mobilise les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies. Car ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, elles offrent une possibilité extraordinaire, c'est la numérisation. C'est grâce à cette numérisation que la société, l'économie de la connaissance, bénéficie de gains de productivité extraordinaires. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de ce processus, de cette dynamique de développement et de mobilisation des technologies nouvelles. Cela dit, il y a d'autres technologies nouvelles qui sont aussi très fortement mobilisées aujourd'hui, en particulier dans le champ urbain, mais ces autres technologies n'ont pas la même caractéristique que ces technologies, les fameuses TIC. Les fameuses TIC sont des technologies dites génériques, c'est-à-dire qu'elles ne constituent pas un secteur donné, mais elles ont pénétré absolument tous les secteurs de la vie quotidienne et tous les secteurs de l'industrie et toutes les autres approches technologiques. C'est en cela qu'elles sont transversales. Et c'est en cela que les TIC ressemblent étrangement à l'électricité et que les TIC, par rapport à la société informationnelle aujourd'hui, jouent un peu le même rôle que l'électricité par rapport à la société industrielle qui se met en place au début du 19e siècle. Et même si ces TIC, aujourd'hui, représentent encore un pourcentage relativement minime du PIB, elles jouent un rôle de bras de levier, un rôle transformateur extrêmement important. Et de la même manière que l'électricité a révolutionné les villes, j'en parlais tout à l'heure, de la même manière, cette révolution de la société de la connaissance, de la nouvelle économie, des technologies industrielles, des mutations sociales, fait augurer d'une nouvelle révolution urbaine, comme on a connu une révolution urbaine au siècle précédent. En fait, les manifestations de cette nouvelle révolution urbaine sont déjà très nombreuses. Les villes se sont toujours saisies des technologies de transport et de stockage pour se développer. De transport et de stockage des biens, des personnes et des informations. L'écriture, les villes se sont saisies de l'écriture pour se développer. Les villes se sont aussi saisies de la roue, de l'imprimerie, du chemin de fer, du télégraphe, du béton armé, de la pasteurisation, de la réfrigération, du tramway, de l'ascenseur, etc. Tout ce qui permet de stocker des personnes, des biens ou des informations participe, est un outil dans des dynamiques de développement urbain. Eh bien, une fois de plus, aujourd'hui, la société urbaine se saisit avec une certaine frénésie des nouvelles technologies, donnant naissance à toutes sortes d'objets techniques et de pratiques sociales et économiques. Les changements ont en fait déjà été particulièrement rapides ces 30 dernières années. Beaucoup d'objets techniques sont devenus déjà presque traditionnels, qu'on en juge. Le taux d'équipement des ménages a bondi dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le domaine de l'automobile, le taux d'équipement des ménages a été multiplié par 2 en une trentaine d'années. En 30 ans, le taux d'équipement des ménages a été multiplié par 3 pour le téléphone, par 4 pour les congélateurs, par 5 pour les magnétophones. Et puis, de nombreux outils de communication, de transport, de stockage, mobilisant ces fameux sticks, sont déjà là. Les magnétoscopes, les TGV, je dirais, les métros automatiques utilisent énormément ces technologies, mais aussi les technologies du quotidien, les CD, les DVD, les téléphones portables, les ordinateurs, Internet, l'usage des satellites pour les transmissions individuelles, pour la localisation du taxi, du livreur, etc. Ces technologies sont déjà là, sont déjà dans la ville et ont déjà commencé à transformer profondément la ville. Et ces technologies transforment la ville et la vie même à partir d'un certain nombre d'objets relativement anodins, un peu comme le réfrigérateur, par exemple. Vous savez, le réfrigérateur, il a participé de façon décisive à la transformation des villes. Le réfrigérateur, il a permis la suburbanisation, il a entraîné, il a participé à la disparition du petit commerce de quartier et au développement des centres périphériques. Le réfrigérateur, avec la voiture, ce sont des objets urbains, mais le réfrigérateur a participé des transformations de la ville. Eh bien, aujourd'hui, on le voit bien que des objets aussi, je dirais pas anodins, mais significatifs, mais par exemple le téléphone portable ou encore le four à micro-ondes sont des éléments de transformation des villes et ont déjà commencé à transformer les modes de vie des citadins, mais aussi les modes de fonctionnement des cités ou des activités économiques dans les villes. Donc en fait, cette révolution urbaine, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé, on en a plein d'indices aussi. La majorité de la population urbaine vit évidemment aujourd'hui dans des grandes agglomérations, mais ce ne sont plus les mêmes types d'agglomérations qu'autrefois. Ce ne sont plus des agglomérations denses, continues, avec cette image de la ville européenne que l'on a, d'une ville assez compacte et continue. Vous savez, on dit qu'on sort de la ville le jour... la notion d'agglomération urbaine était fondée sur la continuité du bâti. Mais qu'est-ce que c'est que la continuité du bâti? Quand on marche à 6 km/h, la continuité du bâti, c'est 2 immeubles qui se touchent. Quand on roule à 60 km/h, la continuité du bâti, ce n'est plus la même échelle. Eh bien, on est maintenant dans des villes, pour la majorité de la population, qui sont des territoires urbains distendus, discontinus, hétérogènes, multipolarisés, enfin des formes urbaines qui n'ont plus rien à voir, pour une bonne part, avec la ville européenne qui est encore dans nos têtes. Les limites entre la ville et la campagne sont de moins en moins nettes. Sont apparus de nouveaux types de lieux, de nouvelles centralités, centres commerciaux périphériques, aérovilles, technopoles, plateformes logistiques, parcs à thème, etc. Les espaces publics et privés se recomposent dans de nouvelles configurations et à toutes les échelles, de l'intérieur du logement, par exemple, puisque l'espace public rentre dans le logement. Internet, c'est un espace public. D'ailleurs, on peut vous agresser chez vous par Internet. Piratage, etc., virus, on connaît bien ce genre de problème, aux espaces extérieurs, qui, eux, sont de plus en plus marqués par des logiques privatives. On le voit bien avec les centres commerciaux qui se diversifient, la ville devient privée dans le même temps où le logement devient public. Et ce type d'évolution ne marque pas simplement les grandes métropoles. C'est une évolution qui marque aussi profondément les petites villes et les villes moyennes. Alors aussi, des formes urbaines classiques auxquelles on est attaché, comme le quartier, connaissent des mutations de plus en plus profondes. Le quartier perd peu à peu une bonne partie de ses fonctions traditionnelles. De plus en plus rarement, le voisin est un ami, un parent, un ami d'enfance, un collègue. Les citadins vivent aujourd'hui à une autre échelle. La plupart des habitants des villes habitent dans une commune, travaillent dans une seconde, se divertissent dans une troisième, s'approvisionnent dans une quatrième. Autrement dit, la vie urbaine a changé d'échelle, le quartier n'a pas disparu, certains attachements, vie associative en témoignent, mais il a perdu une bonne partie de ses fonctions sociales, car la vie urbaine se passe aujourd'hui à une autre échelle. Je gère plus ou moins bien le support... J'anticipe. Cette révolution urbaine a commencé, mais elle n'a fait que commencer. Elle n'en est encore qu'à ses débuts. Elle n'en est encore qu'à ses débuts parce que, en fait, il y a un certain nombre de transformations, d'évolutions très lourdes qui travaillent notre société, qui sont à l'œuvre et qui n'ont pas fini de produire des effets et de produire ces effets sur la fameuse révolution urbaine que j'évoquais au début de ma conférence. Je vais, par commodité, distinguer 5 évolutions majeures pour essayer de rendre compte de ces transformations structurelles des villes et à partir de là, voir comment il faut aborder les questions de l'urbanisme d'une autre manière, étant donné les transformations liées à ces évolutions. Ces cinq évolutions structurelles à l'œuvre, les voici. La première, c'est ce qu'on appelle la métropolisation. C'est un mot qui est assez à la mode. La métropolisation, c'est un changement d'échelle et de forme des villes. On peut définir sommairement la métropolisation comme la poursuite de la concentration urbaine des richesses humaines et matérielles dans les villes les plus importantes. C'est ce processus de concentration qui se poursuit et qui se poursuit dans tous les pays développés en tout cas, bien sûr avec des formes différentes, parce que les pays ont des histoires urbaines, des densités, des rapports à la nature qui font que ce phénomène prend des formes diverses, mais cette concentration métropolitaine, elle est à l'œuvre partout dans tous les pays développés. Dans les pays en voie de développement, peut-être faut-il la qualifier un petit peu différemment. La métropolisation est évidemment liée à la dynamique générale de la société, à la globalisation, à l'approfondissement de la division du travail, cette fois-ci à l'échelle mondiale. Et d'une certaine manière, de la même manière qu'il est dur de contester, quelles que soient les luttes menées ici et là, la globalisation dans son principe, en tout cas l'internationalisation, de la même manière, il est dur de contester la métropolisation comme processus, même si on peut légitimement souhaiter maîtriser ce processus et ne pas être dominé par les logiques marchandes qui, actuellement, l'animent de façon souvent univoque. La métropolisation est très importante comme processus, mais elle entraîne, je dirais, un double effet. Un effet d'homogénéisation et un effet de différenciation, comme la globalisation. Homogénéisation parce que finalement, on trouve aujourd'hui, dans toutes les métropoles, les mêmes acteurs économiques, les mêmes produits, les mêmes manières d'agir d'une certaine manière. Mais différenciation parce que les mises en contact qu'opère le global produisent, révèlent, réactivent les différences en général et le local en particulier. Cette réactivation du local, c'est pour le meilleur quand on met en valeur les patrimoines culturels et architecturaux d'une ville, et pour le pire quand cela réveille les exclusives territoriales, ethniques, sociales. Mais ce sont en dernière instance les différences entre les territoires qui finissent par faire bouger les hommes, les biens, les capitaux, les informations. Deuxième grande tendance à l'œuvre, la transformation du système des mobilités urbaines. La globalisation se nourrit bien évidemment du développement des technologies de transport et de télécommunications. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont espéré ou ont craint, les nouvelles technologies de l'information et de la communication n'enrayent pas le processus de métropolisation. De fait, on le voit bien empiriquement, ceux qui télécommuniquent le plus sont ceux qui se déplacent le plus. Autrement dit, les technologies de l'information et de la communication ne se substituent pas aux déplacements, mais elles participent d'une dynamique générale de la mobilité et elles sont mobilisées, ces technologies, dans cette dynamique de la métropolisation. Le téléphone n'avait pas enrayé, au contraire, le développement des villes américaines, les technologies de l'information et de la communication non plus. Je ne développerai pas ce point, mais il est très important. En revanche, quelque chose qui est très important, c'est de souligner que le développement de ces technologies nouvelles de communication, d'une certaine manière, banalise ce secteur, ce type de relation. L'accessibilité physique, la possibilité de rencontres directes, du face-à-face, sont en fait plus que jamais les vraies richesses des lieux de vie et de travail. On en a beaucoup de témoignages, je dirais, aujourd'hui, où les prix de l'immobilier redémarrent, le boom immobilier que les pays ouest européens et nord-américains connaissent. Les valeurs immobilières, foncières, qui flambent, ce sont dans les centres-villes, ce sont dans les grandes agglomérations. Mais on s'en aperçoit aussi de cette importance plus grande que jamais du face-à-face, de la rencontre, c'est le développement de tout un tas d'activités qui ne sont pas médiatisables. On peut interpréter de cette manière le développement des pratiques sportives, la restauration de loisirs, la croissance des mobilités liées aux rencontres familiales et amicales, l'importance des grands événements, des grandes manifestations. Tout ça, ce sont des indices de l'importance renouvelée de l'expérience directe, du life dans la vie urbaine. Nous n'allons pas vers une ville virtuelle, immobile et intravertie, mais plutôt vers une ville mobile, télécommunicante et sensible, faite d'arbitrages nouveaux et de recomposition entre déplacement, télécommunication, livraison. On va se déplacer de façon différente dans la ville, mais on se déplacera et on se déplace autant. Dans une ville qui est animée par tous les événements qui exigent la coprésence, dans une ville dans laquelle la qualité des lieux sera ce qui fera la qualité des lieux, c'est ce qui mobilisera le maximum de sens. Autrement dit, la qualité des lieux aujourd'hui est non seulement celle qui offre un spectacle, par exemple, mais c'est ce qui permet de donner une qualité, qui permet de multiplier les expériences sensorielles, y compris le toucher, le goût, l'odorat. Je dirais, d'une certaine manière, on voit bien que les promoteurs commerciaux aujourd'hui se rendent compte de l'importance de cette expérience directe du face-à-face. Un spectre hante le commerce, c'est le commerce électronique. Est-ce que demain, nous allons acheter par Internet et donc il n'y aura plus aucune raison de se déplacer ? On constate d'abord que là où, dans un pays comme les États-Unis, où le commerce électronique s'est développé beaucoup, les gens se déplacent tout autant, mais ils se déplacent pour d'autres raisons. Ils font des courses, ils se déplacent pour des courses qui sont autres. Et de fait, aujourd'hui, le commerce loisir devient une dimension très, très importante. C'est le commerce qui est susceptible d'attirer physiquement les consommateurs. C'est le commerce qui propose une expérience sensorielle, un événement. Et c'est là, dans ces expériences directes, que sont probablement les clés des futures polarités commerciales. Nous allons assister à une recomposition de tout l'appareil commercial et des centralités traditionnelles et périphériques en fonction de ces recombinaisons. Troisième grande transformation, la maîtrise individuelle des espaces-temps. L'individu est de plus en plus au centre de la vie sociale, de ses pratiques, de ses représentations. Cette évolution est à l'œuvre, évidemment, au moins depuis la Renaissance. Plus généralement, on peut parler d'un processus d'individuation, c'est-à-dire d'une autonomie croissante des individus et d'une appropriation individuelle de plus en plus marquée de l'espace comme du temps. Aujourd'hui, les citadins se saisissent de tous les objets, outils, techniques qui leur permettent de s'adapter dans une ville et de développer cette autonomie. Autonomie qui est rendue nécessaire, par exemple, par la flexibilité et la personnalisation des horaires du travail. Autonomie qui est liée à l'indépendance et à l'autonomie de chacun des membres d'une même famille. À la multiplication des micro-événements qui déroutinisent le quotidien et qui obligent le citadin sans cesse à choisir ou à s'adapter à des situations. Cette évolution s'exprime très très nettement dans le domaine de la mobilité et des déplacements urbains. La mobilité urbaine est de plus en plus irrégulière et changeante. Autrefois, l'essentiel de la mobilité, c'était le domicile-travail. Aujourd'hui, dans les villes, Jean-Pierre Orfeuille en parlera d'ici quelques jours, la mobilité domicile-travail représente moins de la moitié des déplacements. Les déplacements sont de plus en plus irréguliers, de moins en moins radioconcentriques du centre à la périphérie, de plus en plus de périphérie à périphérie. Ils ne sont pas les mêmes chaque jour. Les modes changent. Et donc, on est dans une société où tous ces objets, l'automobile, le téléphone cellulaire, l'ordinateur portable, Internet, les répondeurs, les magnétoscopes, etc., sont ces instruments qui sont saisis par les citadins pour essayer de gagner cette autonomie, d'organiser leur autonomie, et qui sont à la fois des outils de délocalisation, de désynchronisation, on voit bien le rôle des répondeurs ou de l'email, et en même temps des outils de resynchronisation et de relocalisation. Cette individualisation n'est pas une indépendance de l'individu en société. Au contraire, nous sommes de plus en plus dépendants de systèmes techniques extrêmement élaborés, extrêmement complexes. Le moindre de nos faits et gestes urbains aujourd'hui dépend de systèmes techniques et généralement marchands. Ces objets techniques servent aussi de point d'appui aux inégalités sociales, voire les redoublent et créent de nouveaux handicaps. Les difficultés tant économiques que culturelles qu'ont certains groupes sociaux ou démographiques pour acquérir ces techniques, ces objets ou pour les utiliser sont des facteurs d'inégalité de plus en plus discriminants et pénalisants. Il y a véritablement une inégalité croissante dans cette capacité d'autonomie dans la ville. Mais cette autonomie, cette diversité, c'est aussi une diversification des modes de vie. L'existence de chacun est de plus en plus singulière. Certains sociologues parlent d'hommes pluriels. Tout cela a évidemment des répercussions énormes sur la ville, mais aussi sur la conception de la ville, sur la conception des équipements, sur la conception des services publics urbains. On ne peut plus penser aujourd'hui, par exemple, le service public de la même manière. Les exigences d'efficacité et d'équité exigent que les services publics soient capables de faire face à cette diversité des besoins et à cette variété changeante. Les réponses fordiennes traditionnelles sont de moins en moins opérantes. C'est un vrai problème, le transport public en étant une des illustrations majeures. Le transport public, tout le monde fait le même déplacement en même temps, à la même heure, en métro, en bus, est de moins en moins adapté à ses existences singulières, à l'exception de zones très particulières comme les centres-villes ou les grands axes. Il faut donc penser aujourd'hui des services publics qui permettent aux individus de développer ces pratiques singulières et que cette possibilité de singularisation soit offerte à tous. Quatrième grande tendance, l'émergence d'une solidarité urbaine et réflexive. En quelques mots, la ville est souvent décrite comme le lieu de tous les maux sociaux, et en particulier avec les problèmes très graves qui se posent dans les grands ensembles d'habitat social. Et on a souvent entendu dire que la société se délite, que le tissu social se déchire, que les liens sociaux disparaissent. En fait, je crois qu'il est important de souligner que les liens sociaux ne disparaissent pas, ils se transforment. Autrefois, notre société était faite de liens sociaux en petit nombre, mais très épais. Je disais tout à l'heure, autrefois, dans le quartier, le voisin était aussi un collègue, un parent, un ami d'enfance, et donc de nombreuses relations passaient par ces liens sociaux. C'était des liens épais, solides, durables. Aujourd'hui, nous avons un tissu social qui tend à être très différent. Il est fait de liens sociaux faibles, fragiles, mais renouvelables, très nombreux, de plus en plus choisis par les individus. Et donc, on ne peut pas dire que la société se déliterait. On ne peut pas dire non plus que le tissu social soit moins résistant. Il est peut-être plus élastique, il n'est plus fait de ces gros fils, il est peut-être fait d'une série de petits liens sociaux extrêmement nombreux qui lui donnent une souplesse, une flexibilité différente. En revanche, l'un des problèmes importants est celui de la ségrégation sociale. Je ne le développerai pas longuement, même si c'est une préoccupation majeure aujourd'hui dans le domaine de l'urbanisme. On assiste à la formation de ghettos de pauvres par tout un tas de mécanismes économiques, sociaux, institutionnels, politiques. On assiste aussi, et c'est un peu nouveau sous cette forme, au développement de dynamiques électives de localisation résidentielle. J'entends par là qu'aujourd'hui, grâce aux technologies nouvelles de transport, de communication, à l'échelle métropolitaine, on dispose, certains groupes sociaux en tout cas, disposent de plus en plus de liberté dans le choix de leur localisation résidentielle. Ils ne sont plus obligés, ces gens, de se localiser, par exemple, à côté de leur lieu de travail. Et donc, il y a une tendance de groupes sociaux à se réunir entre soi sur des affinités électives qui peuvent être très ambiguës parce qu'ils ont les mêmes modes de vie, parce qu'ils ont les mêmes revenus, parce qu'ils ont la même couleur de peau, parce qu'ils ont les mêmes convictions. C'est là quelque chose de très préoccupant, une fragmentation urbaine importante. Aux États-Unis, on a vu ce phénomène se développer très rapidement. On appelle ça les « gated communities », les villes fermées, des sortes de villes privées. Nous ne sommes pas là en France. Mais il est clair qu'avec le découpage communal que nous avons en France, nous avons l'impression, et le débat à la Chambre à propos de la loi sur la mixité sociale a un peu reflété ce genre de choses, nous avons des risques de fragmentation sociale et de ségrégation tout à fait significatifs. Dans ce contexte, l'exigence d'un nouveau type de solidarité urbaine émerge. Et je crois que ça, c'est un des éléments majeurs du contexte aujourd'hui de l'urbanisme. On le voit dans les termes politiques, la plupart des élus locaux aujourd'hui pensent que non seulement l'intercommunalité est nécessaire, mais qu'il faut aller vers des pouvoirs d'agglomération démocratique élus au suffrage universel, car le morcellement communal aujourd'hui ne permet pas cette solidarité urbaine que tous finissent finalement par réclamer. Car même ces habitants des gated communities, qui habitent dans ces villes fermées avec leurs propres policiers, leurs propres services d'incendie, leurs propres crèches et leurs golfs éventuellement, même ces populations se déplacent dans la ville. Elles ont besoin de la métropole, car évidemment, la plupart des équipements, le marché de l'emploi, sont à une autre échelle que ces quartiers barricadés. D'autre part, tous les groupes sociaux, y compris ceux qui bénéficient de ces protections, ont besoin d'une paix sociale, de sécurité et de cohésion sociale, et de fait, émerge de plus en plus clairement cette nécessité d'une solidarité urbaine, territoriale, de type nouveau, à l'échelle des agglomérations. Mais cette nouvelle solidarité urbaine est assez différente des solidarités précédentes. Elle ne résulte plus d'une coprésence. Ce n'est pas parce qu'on est plus solidaire de son voisin, on est solidaire des citadins qui habitent et pratiquent la même agglomération. Avec Francis Godard, on a proposé d'appeler ça la troisième solidarité ou la solidarité de type réflexif pour essayer d'inscrire cette réflexion sur ces nouvelles formes de solidarité dans la tradition durkheimienne d'une solidarité mécanique qui a fait place, qui est celle du village, qui a fait place à une solidarité organique, en gros, qui est celle de la division du travail et de la ville. Eh bien, on arrive à une nouvelle forme de solidarité qui se définit par d'autres relations au groupe et au territoire. Dernier point avant d'en arriver aux implications concrètes sur l'urbanisme, c'est cette notion de société du risque. Cette notion de société du risque a été développée de façon tout à fait convaincante, notamment par un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck. Et parler de société du risque, c'est d'une certaine manière rendre compte de la montée des incertitudes qui est un phénomène central dans notre société. Les inquiétudes de la population face à l'insécurité, à la violence urbaine, la tension croissante portée aux questions d'environnement, le succès des problématiques du développement durable, la place prise par les problèmes sanitaires et alimentaires sont autant de manifestations de l'importance que la notion de risque prend dans notre société. Et d'une certaine manière, paradoxalement, c'est le développement même des sciences et des connaissances qui développe le risque. Car c'est de la connaissance du risque qui en fait la réalité. Les risques n'existent que pour autant qu'on peut les imaginer, les mesurer et essayer de les éviter. Le rapport à la nature, dans ce contexte, connaît aussi une mutation radicale. Aujourd'hui, ce qui est nature est vécu comme quelque chose qui est inséré dans le social.
Je m'agite trop. La nature est vécue comme quelque chose d'inséré dans le social, qui relève de décisions. Cela ne fait qu'accroître l'incertitude. Le futur ressemble moins que jamais au passé et devient d'une certaine manière de plus en plus menaçant. Dans ce contexte de la société du risque, les individus comme les acteurs sociaux et économiques sont de plus en plus à la recherche de tout ce qui peut assurer, réassurer, rassurer, produire de la confiance. Et je crois que c'est là un des enjeux clés de cette société dans laquelle nous entrons. En tout cas, cette question de la confiance dans la société urbaine, c'est un élément du contexte que les pouvoirs publics, les responsables politiques, les urbanistes, les aménageurs ont à intégrer pour développer ce nouvel urbanisme dont je vais maintenant vous parler plus concrètement. C'est pas très lisible. Il me reste 20 minutes, donc ça marche. Les dynamiques sociétales et urbaines que je viens d'évoquer, je l'ai dit, sont déjà profondément avancées. Et de fait, nous allons devoir réviser assez vite les concepts que nous utilisons. Je le disais au début, les concepts de l'urbanisme comme la continuité, la densité, l'homogénéité, la distance, la proximité, la connexité, raisonner en termes de fonction, tout ça, ce sont les notions qui ont fondé l'urbanisme contemporain. De même que l'urbanisme contemporain s'est développé avec certaines idées de ce qui était privé et public, avec des différences dans les pays, ce qui était l'intime et ce qui était le social, ce qui était l'intérêt local, communautaire, ce qui était l'intérêt général. Or, nous voyons apparaître des tas de nouveaux objets et nous sommes interpellés car ces notions, ces concepts sont assez impropres pour manipuler ces nouveaux objets qui apparaissent. Excusez-moi. Mais dire qu'il faut développer donc un nouvel urbanisme, c'est quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour dans la plupart des pays développés. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase ni de l'urbanisme tel qu'il s'est développé, ni des villes telles qu'elles se sont développées. D'ailleurs, nous avons de plus en plus tendance à patrimonialiser tout ce que nous avons produit précédemment. Mais l'enjeu principal de ce nouvel urbanisme dont je vais vous parler à grands traits, qui émerge et qui émerge dans des pratiques assez diversifiées, c'est finalement de concevoir les développements urbains et les réaffectations d'usage des villes actuelles de telle sorte que les villes s'inscrivent dans ces dynamiques d'évolution sociale que j'ai évoquées et qu'elles y participent et qu'elles aident la société à maîtriser ces évolutions. Alors, ce sont ces tendances nouvelles que je vais vous présenter très schématiquement. Et je dirais, pour caractériser de façon globale l'évolution que nous connaissons en matière d'urbanisme, je dirais que nous passons donc de la modernité simple que j'évoquais à la modernité avancée, qu'émerge ainsi un nouvel urbanisme qui va au-delà de cette modernité simple, urbanisme que l'on pourrait qualifier donc de méta-urbanisme. Ce méta-urbanisme, comme précédemment l'urbanisme, s'inscrit dans la pensée de son époque, dans les modes d'action et de pensée de son temps, c'est-à-dire aujourd'hui, dans ce passage célébré entre autres par Edgar Morin, de problématique de la complication à des problématiques de la complexité, par de nouveaux rapports au futur et de nouvelles manières de gérer l'incertitude, par une efficacité fondée sur la flexibilité plutôt que sur la normalisation, par la diversité plutôt que la spécialisation, par la conviction plutôt que l'autorité, par le choix plutôt que la destinée. Je vais donc vous présenter ce méta-urbanisme à partir de 9 traits principaux, nécessairement schématiques, mais qui vont me permettre de caractériser les évolutions principales de l'urbanisme. Première évolution, de la planification urbaine au management stratégique urbain. L'urbanisme moderne définissait et dessinait les grandes lignes d'un projet de ville à long terme, sous la forme de schémas directeurs, de choses comme ça. Puis en déduisait un plan d'urbanisme visant à faire rentrer les réalités à venir dans un cadre prédéfini. Le plan était le moyen de réduire l'incertitude. Le méta-urbanisme définit des projets pour une ville, s'efforce de les rendre cohérents, élabore une démarche stratégique pour leur mise en œuvre et tient compte dans la pratique des événements qui surviennent, des évolutions qui s'esquissent, des mutations qui s'enclenchent, des concurrences qui s'aiguisent pour réviser, si nécessaire, des objectifs ou des moyens de réalisation. Le méta-urbanisme fait du management stratégique, comme on en parle dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il vise non plus à réduire les incertitudes, ce qui serait illusoire dans une société ouverte et en mutation, mais à composer et à jouer avec elle. Deuxième grande caractéristique de cet urbanisme, des règles exigentielles aux règles performantielles. L'urbanisme moderne définissait les moyens de réaliser le projet de ville par des règles simples et aussi durables que possible. Zonage, densité, hauteur, les règles étaient de nature exigentielle. L'urbanisme, le méta-urbanisme, aujourd'hui, privilégie plutôt les objectifs à atteindre. Il ne préjuge pas des moyens. Il laisse les acteurs mettre en œuvre toute la créativité nécessaire et aussi leurs propres intérêts, leurs propres logiques, pour réaliser dans les meilleures conditions les exigences attendues, les résultats attendus. Cela oblige à de nouveaux types de formulations de la qualité urbaine, de l'accessibilité aux équipements et aux services publics, des normes à atteindre, des caractéristiques formelles. Aujourd'hui, dans le domaine de l'urbanisme, on parle par exemple de plan d'urbanisme qualitatif, c'est-à-dire qu'on définit le type d'ambiance, le type de paysage, le type de résultat auquel on veut aboutir, et on verra bien ensuite les arbitrages qui seront nécessaires pour les hauteurs, pour la localisation de telle ou telle activité, en fonction de cet objectif général. On libère une créativité et on se donne les moyens de s'adapter à des variations et à des dynamiques diverses. Troisième grand trait, de la spécialisation spatiale à la complexité. L'urbanisme était très marqué par la pensée taylorienne et fordienne et cherchait la performance dans la spécialisation et la simplification des fonctions urbaines et dans la affectation à des espaces dédiés. Vous savez, dans les postes, on dit à cet endroit-là, il y a telle fonction, et ça, ça vient finalement d'une toute une conception de la fin du 19e siècle de cet urbanisme de zonage fonctionnel. Le méta-urbanisme est influencé par les nouveaux modèles de productivité et de gestion, cherche moins à simplifier des réalités compliquées et s'efforce avant tout de jouer avec des territoires et des fonctions complexes. La performance, voire la durabilité, s'obtiennent plutôt, comme dans l'industrie d'une certaine manière, par la variété, la flexibilité, la réactivité. Quatrième trait, de l'équipement collectif aux équipements et services individualisés. L'urbanisme moderne privilégiait des réponses massives, générales, répétitives. Il était en cela en phase, je l'ai dit, avec le taylorisme, le fordisme, la production de masse. Dans le contexte d'individualisation qui est le nôtre, cela n'est plus possible. Et de fait, la réflexion sur les équipements collectifs, les services publics, n'échappe pas à cette personnalisation. La personnalisation, nous la connaissons tous à partir d'éléments évidents. Je dirais la montre est l'exemple même de cette évolution qui va de l'équipement collectif à l'objet personnalisé. Au début, c'est un équipement qui est une horloge sur un beffroi ou un clocher. Puis, c'est une pendule qui rentre dans le logement et sur le lieu de travail. Et finalement, ça devient un objet portable, individualisé, nomade. Il en va de même avec le téléphone. Le téléphone est un objet qui, d'abord, est un équipement qui équipe les grands magasins, les gares, les hôtels, quelques endroits. Puis, peu à peu, il entre dans les lieux de travail, le logement, il équipe les lieux. Et aujourd'hui, il équipe les personnes et il est mobile. Bien de la même manière, il faut penser aujourd'hui les équipements collectifs, les services publics, en fonction de cette individualisation, de réponses de plus en plus personnalisées. Dans le domaine du marketing, on parle de one-to-one, et je crois que cette révolution de l'individualisation, de la singularisation, c'est un défi majeur pour le service public qui est à penser autrement. Cela dit, le méta-urbanisme qui va développer ce type d'approche ne fera pas l'économie d'infrastructures lourdes, mais ce ne seront plus les mêmes. Aujourd'hui, le téléphone mobile nécessite des infrastructures considérables, mais ce sont ces infrastructures qui sont clés pour les pratiques urbaines, pour la mobilité quotidienne, et c'est elles qui deviennent au cœur, qui sont au cœur de ce nouvel urbanisme. Alors bien sûr, les équipements traditionnels ne disparaissent pas pour autant. Le tramway connaît une seconde jeunesse, les universités restent un équipement collectif important, mais il est clair que ces équipements devront intégrer la transformation des territoires et des pratiques sociales, et que nous ne pourrons pas, en ce qui concerne un domaine qui m'intéresse plus particulièrement, continuer à produire le même type d'université, le même type de lieu et le même type de fonctionnement universitaire. Cinquième caractéristique de ce nouvel urbanisme, c'est la modification du partage public-privé. L'urbanisme s'est développé en gros avec des variantes selon les pays, évidemment, parce qu'il y a des cultures différentes, en affectant le public à l'espace extérieur et le privé à l'espace intérieur. Le méta-urbanisme est confronté au brouillage de ce modèle. Un nombre croissant d'infrastructures et d'équipements entrecroise des interventions publiques et privées. C'est le fameux partenariat public-privé qui peut inquiéter dans la mesure où on voit les logiques marchandes jouer de façon souvent ambiguë avec les logiques publiques, mais qui est aujourd'hui au cœur de toutes les politiques d'investissement, d'infrastructure, et qui est une dimension incontournable aujourd'hui dans la production de la ville. Mais les statuts juridiques et pratiques des espaces changent aussi. On ne peut plus se contenter de distinctions simples, intérieur-extérieur, infrastructure-superstructure, équipement-service, individuel-collectif. Les nouvelles technologies participent de façon tout à fait décisive à ces recompositions. Elles permettent, par exemple, de dissocier la production, le transport et la distribution de différents fluides, l'eau, l'électricité, le téléphone. Et de ce point de vue, elles entraînent de nouvelles approches de ce que doivent définir les pouvoirs publics en matière de services publics. Elles modifient aussi les possibilités de péage et donc tous les modes de financement. le transport collectif, dans les années qui viennent, sera probablement financé de façon très, très différente. Vous savez que dans les années qui viennent, vous aurez probablement des cartes de transport qui vous permettront, des cartes magnétiques de transport qui vous permettront de vous déplacer, de payer votre parking comme votre métro, votre autobus comme votre autoroute. Dans ce contexte-là, les modalités traditionnelles de financement des transports, d'aide aux transports publics, etc., nécessairement seront bouleversées. Sixième grande évolution, et je vais accélérer, c'est cette formule un petit peu absconce, de l'intérêt général substantiel à l'intérêt général procédural. J'entends par là que l'urbanisme, avec des différences aussi dans les pays, définissait un intérêt général ou un intérêt commun et construisait des régulations collectives à partir de cette définition de l'intérêt général et de l'intérêt commun. Le métaurbanisme est confronté à une diversité mouvante d'intérêts et à une complexité d'enjeux non réductible à un intérêt collectif unique. Les élus locaux, l'État, les urbanistes et les experts de toutes sortes peuvent de moins en moins prétendre fonder leurs actions et leurs propositions sur un intérêt général ou commun objectif. Et ce, d'autant moins que le développement des sciences et des techniques met en évidence des complexités irréductibles là où autrefois les experts ne voyaient que des complications à simplifier. C'est ce qui fait d'ailleurs l'acuité de ce thème du principe de précaution, c'est-à-dire le principe de précaution, il intervient là et quand les experts sont en désaccord ou sont impuissants à trancher. Eh bien, cette qualification d'intérêt général ou de commun, qui était autrefois attribuée, prétendait l'être de façon objective, maintenant résultera plus du processus qui conduit à la formulation d'une décision collective. C'est moins la nature objective de cet intérêt qui le rend général, plus que le processus de consultation, de négociation et de compromis qui, lui, est capable d'en faire un intérêt collectif, un intérêt général. Les procédures d'identification des problèmes, de négociation de leurs termes, prennent une importance croissante et décisive et modifient la nature de l'intervention des expertises et des tâches technico-scientifiques des urbanistes. Cette évolution modifie très sensiblement les lieux, les modalités et les contenus des pratiques professionnelles de l'aménagement et de l'urbanisme. Septième trait, je serai encore plus bref sur ce trait, des régulations organisatrices aux régulations coordinatrices. Je dirais d'un mot simplement que les régulations développées par le méta-urbanisme organisent moins et coordonnent plus. Cela aussi a des implications très importantes sur les métiers. Huitième et avant-dernier trait, du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine. Vous voyez bien que cette diversité dont je vous ai beaucoup parlé ne permet plus de prendre les décisions de la même sorte. Autrefois, il fallait un gouvernement fort et ferme. Aujourd'hui, l'urbanisme ne peut plus prendre place dans les mêmes procédures. Le métaurbanisme est confronté à des groupes sociaux diversifiés, des individus multi-appartenants, des territoires socialement et spatialement hétérogènes, une vie associative proliférante mais éphémère, à l'affaiblissement des médiateurs qui étaient ces commerçants de quartier, instituteurs, curés, concierges, etc. De plus, ils doivent s'appuyer sur des logiques publiques et privées hétérogènes. Dans ce contexte, le métaurbanisme nécessite de nouvelles formes de conception, de construction, de mise en œuvre des décisions publiques, capables d'associer, de consulter, de mobiliser des habitants, des usagers, des acteurs, des experts, de façon renouvelée, en amont et en aval des prises de décision. C'est ce qu'on appelle la gouvernance urbaine, qui est précisément cette nécessité de renouvellement de la construction et de la gestion de la décision publique. Dernier point, des idéologies urbanistiques au référentiel et au style multiple. Vous voyez bien que dans ce cadre-là, le métaurbanisme, à la différence de l'urbanisme, ne peut plus proposer des réponses simples, uniformes et souvent associées à un style urbain. Le métaurbanisme ne fait bien sûr pas table rase de l'urbanisme moderne en général, mais il est obligé d'aller plus loin et de proposer une multiplicité de réponses et d'adaptation, de réactivité. C'est un urbanisme que l'on pourrait qualifier de multivarié. D'une certaine manière, il libère aussi les choix esthétiques, car quand on dit qu'aujourd'hui nous sommes dans une homogénéisation des styles architecturaux, c'est peut-être vrai à l'échelle globale, mais les styles que l'on rencontre à l'intérieur d'une ville sont bien plus variés aujourd'hui que ceux que l'on pouvait connaître il y a un siècle ou deux. Le problème est effectivement cette variété, la capacité de gérer cette variété. Le méta-urbanisme tend ainsi à désolidariser les parties urbanistiques et les parties architecturaux. Alors, en conclusion, parce que je crois que je suis dans mes dernières minutes, c'est ça ? Non, je termine. En conclusion, donc, et pour résumer ce méta-urbanisme émergent, je dirais que c'est un urbanisme de dispositifs. Il s'agit moins de faire des plans que de mettre en place des dispositifs qui les élaborent, les discutent, les négocient. C'est un urbanisme réflexif. L'analyse ne vient plus avant la règle et le projet, mais elle les présente en permanence. La connaissance et l'information sont mobilisées avant, pendant et après l'action. Réciproquement, le projet devient aussi pleinement un instrument de connaissance et d'interprétation. Un urbanisme concourant, la conception et la réalisation des projets résultent de l'intervention d'une multiplicité d'acteurs aux logiques différentes et de la combinaison de leurs logiques. Un urbanisme multivarié fait d'éléments hybrides, de solutions multiples, de redondances, de différences. Un urbanisme stylistiquement ouvert, qui, en émancipant le design urbain des idéologies urbanistiques et politico-culturelles, ouvre une place nouvelle aux choix formels et esthétiques. Les indices textuels et factuels de l'émergence de ce méta-urbanisme sont nombreux un peu partout dans le monde. Le plus récent de ces indices en France est probablement le débat actuel sur la loi Solidarité et renouvellement urbain, en débat au Parlement. En effet, la proposition de remplacer très concrètement les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols par des schémas de cohérence territoriale évolutifs et par des plans d'urbanisme libérés du carcan de la liste des articles obligés du POS illustre bien cette évolution vers ce méta-urbanisme. En tout cas, c'est la lecture que nous voulons faire de ce projet de loi et de ce qu'il en sera fait par la suite. C'est l'espoir que nous en avons. Je vous remercie de votre attention. Je crois que je suis à 50 minutes.
Alors, passons aux questions. J'en vois une là, monsieur. Est-ce qu'il y a un micro là ? Descendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Allez-y.
Merci.
Manifestez-vous pour les questions.
Merci, j'ai une question très simple. On connaît l'histoire de l'homme qui est de l'homme principalement nomade, qui a marché jusqu'à remplir la planète entière et qui s'est concentré dans certains points qui ont devenu les grandes agglomérations. Actuellement, même avec tous les avantages des grandes villes, c'est citoyen ou citadin, ne perd pas l'occasion d'échapper à la ville, d'aller dans la résidence secondaire ou à la mer ou faire du tourisme. Ma question est tout simple. Est-ce que l'habitant des grandes agglomérations, c'est un sédentaire ou un nomade ?
Je réponds. Je crois d'abord qu'on ne peut pas parler de l'habitant des grandes agglomérations. Car je crois que ce qui est caractéristique aujourd'hui, j'ai essayé d'insister sur ce trait, c'est la diversité. Et quand on dit on assiste à un retour à la campagne ou on assiste au retour de certaines populations vers les centres-villes, les gens sont des nomades, les gens sont des gens qui s'enracinent dans le quartier. Je crois que ce qui est caractéristique précisément des grandes agglomérations, c'est cette variété. Mais c'est une variété qui est de plus en plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés effectivement à des demandes variées et l'enjeu, c'est quelles seront les régulations collectives. Je m'explique. Un des grands enjeux aujourd'hui, On le voit bien dans le débat avec la loi en discussion, mais avec les écologistes, c'est l'étalement urbain. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de trouver un compromis socialement et environnementalement acceptable pour que les gens qui veulent faire le choix d'avoir plus de surface et un jardin puissent trouver ce choix, faire ce choix, et il est possible aujourd'hui dans les villes d'aujourd'hui, et que ceux qui veulent habiter dans les centres-villes puissent trouver dans les centres-villes un marché immobilier qui réponde à leurs demandes. Je crois que l'enjeu des politiques urbaines, l'enjeu, la responsabilité des politiques et des urbanistes aujourd'hui, c'est d'offrir une multiplicité de vie urbaine, de possibilités de vie urbaine. Alors, nomade ou pas nomade, je crois qu'on simplement, on est de plus en plus mobile. On ne reviendra pas à une vie de proximité. L'idée qu'on pourrait vivre dans une ville compacte, resserrée de nouveau à l'échelle du quartier, ça, c'est une illusion. Le marché du travail, les équipements auxquels on aspire, tout cela fait que la mobilité est incontournable. Et je dirais aujourd'hui, le droit à la ville passe par le droit à la mobilité.
Bonsoir. Vous avez dit que nous sommes en pleine révolution urbaine. Et à ce propos, vous avez énuméré un certain nombre d'objets modernes, tels que le micro-ondes ou le téléphone portable, qui sont effectivement pratiquement à la portée de tous, de tous les membres de la société. Ainsi, on a l'impression que cette révolution urbaine a profité à tous. Cependant, cette même révolution urbaine a aggravé les inégalités sociales au niveau de l'habitat, au point d'engendrer des cités populaires ou ouvrières, voire ghetto-ethniques, souvent insalubres. Dans le même temps, des quartiers résidentiels et des zones pavillonnaires ont poussé et parfois ils font face aux cités pauvres. La question que je souhaite vous poser, c'est celle de savoir si cette mutation urbaine contemporaine n'est pas d'inspiration idéologique marchande qui ne vise pas forcément le bien-être général, la qualité de la vie de tous les citoyens et ce, quelles que soient leurs conditions sociales. Je vous remercie.
Très brièvement, je crois que nous sommes dans une société marchande qui ne vise pas l'égalité, mais le profit, et que vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, ces nouveaux objets techniques sont les supports d'inégalités sociales, quelquefois de renforcement de certaines inégalités sociales. Je dirais, je ne sais pas si on peut faire une échelle de valeur dans la ségrégation et dans l'inégalité, mais je crois qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, ces objets sont les supports d'inégalités sociales. Et simplement, la responsabilité des hommes politiques, avant, je dirais, celle des urbanistes, parce que ce ne sont pas les urbanistes qui changent la société, est précisément de mettre en œuvre des instruments d'action qui puissent limiter ces inégalités, corriger un certain nombre d'inégalités. C'est pour ça que je crois que la notion de service public est plus importante que jamais. Simplement, il faut penser le service public autrement. Le service public, je prendrai un exemple un peu caricatural. Autrefois, le bain-douche était un grand équipement collectif. Il a été légitime que tout le monde puisse accéder à la salle de bain. Aujourd'hui, penser le service public, ce n'est pas nécessairement proposer des autobus et des métros pour les pauvres. C'est peut-être penser à ce que tous puissent accéder à une autonomie de mobilité. Alors, il y a la contrainte écologique, et je crois que c'est en ces termes qu'il faut le poser. Mais je crois que vous avez raison, nous sommes dans une société marchande, et les inégalités, les luttes sociales se saisissent de ces technologies nouvelles et en animent largement le développement.
Là-haut, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais vous remercier, monsieur, de nous avoir fait pénétrer au cœur de la révolution urbaine, notamment avec votre analyse d'éthique. Mais je vais peut-être me faire l'avocat du diable. Si pour comprendre un phénomène, il faut en comprendre le cœur, ne faut-il pas aussi s'intéresser aux marges ? Et je rejoindrai en cela la question qui vient de vous être posée. Quid de la ville informelle, de la ville illégale ? Est-ce que le méta-urbanisme s'y intéresse ? Et lorsque je parle de ville informelle, je ne fais pas référence aux favelas ou aux bidonvilles africains, mais tout simplement aux villes illégales, qui, dans des pays de l'URPS et de la police, comme l'Italie ou la Grèce, voient se développer les G-Secundo pour la Turquie, pardon, un habitat illégal dans l'Attique, les Borgate autour de Rome. Alors, comment gérer cette ville qui échappe à l'urbaniste ?
Là encore, j'aurais tendance à dire, avant d'être un problème d'urbanisme, C'est un problème politique, c'est un problème de choix politique, de lutte sociale, d'engagement. Les urbanistes sont des techniciens qui peuvent mettre au service de politique un certain nombre d'outils. La question se pose aujourd'hui de façon très compliquée pour les hommes politiques en France, par exemple avec les grands ensembles d'habitat social, où on a des formes d'économie informelle, légale, souvent illégale, de ce que certains appellent des trafics, de formes d'organisation communautaire, etc. Je pense que là, il y a une véritable responsabilité, un choix à faire. Il est normal que des groupes sociaux essayent de s'auto-organiser pour faire face aux inégalités. Il est peut-être normal aussi que dans un système comme celui de la République en France, on pense qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de permettre à ces populations d'accéder à la société, de s'y intégrer, de leur ouvrir les possibilités qu'elles n'ont pas. Je pense que ces pratiques informelles sont une réponse face à l'incapacité des pouvoirs publics et que c'est en ces termes qu'il faut les poser. Monsieur... Non, vous n'avez pas l'air... Sur le plan spatial, on a... Mais je prendrai alors l'exemple français qui est très fort aujourd'hui, qui est celui de la démolition des grands ensembles. Depuis 20 ans en France, nous menons une politique dite politique de la ville. Nous avons commencé par repeindre les immeubles, les isoler, améliorer l'isolation. Ensuite, nous avons essayé d'y faire un meilleur urbanisme. Ensuite, avec des zones franches, nous avons essayé d'y apporter des emplois. Et de fait, à quelques rares exceptions près, qui sont toujours les mêmes qu'on cite, Vaux-en-Velin, Nantes, etc., la plupart de ces grands ensembles, un grand nombre de ces grands ensembles, continuent de se dégrader. Les gens, dès qu'ils peuvent quitter ces grands ensembles, le font. Quand ils ont un emploi, ils s'empressent de quitter ces grands ensembles. Le taux de vacances dans ces grands ensembles augmente. Et effectivement, ceux qui ne peuvent pas en sortir développent des pratiques informelles, s'auto-organisent. Je crois que là, il est clair que cette forme urbaine redouble les inégalités sociales et que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir le courage et de mettre les moyens politiques et économiques pour détruire radicalement un certain nombre de grands ensembles, car on sait qu'on enferme là des populations et que les enfants qui grandissent dans ces grands ensembles grandissent avec des handicaps supplémentaires par rapport aux autres handicaps qu'ils ont déjà pour des raisons sociales, culturelles et économiques. Donc je crois là que la démolition de grands ensembles n'est pas une solution recette miracle, mais qu'elle est absolument indispensable dans un grand nombre de cas, qu'il s'agit de répartir le logement social dans les agglomérations, et je crois que c'est un des enjeux du débat sur la loi solidarité urbaine, mais que physiquement, il ne faut pas se leurrer en disant « cet urbanisme moderne a des qualités, etc. » Urbanisme moderne ou pas, qualité urbanistique ou pas, il y a des processus qui concentrent les populations à problème dans ces quartiers. Et aujourd'hui, dans un grand nombre de cas, il s'agit de démolir des pans entiers de ces grands quartiers pour y faire autre chose et pour y mettre cette mixité sociale et fonctionnelle qu'on n'est pas arrivé à faire depuis plus de 20 ans de politique de la ville.
Alors, on va prendre une dernière question.
Première question. J'ai regardé une liste de prix en 1956. Bon, les meubles, c'est 100 fois plus cher. Les automobiles, 3 à 4 fois. Je ne sais plus si l'abonnement au téléphone, c'est 12 fois ou 120 fois. Enfin, je m'arrête là, ce n'est pas la peine de le faire tout là. Alors, est-ce que le mécanisme des prix, parce que les guerres, bon, pendant les guerres, on trouve de l'argent, mais c'est parce qu'on applique Keynes, enfin, c'est ce qui a été fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Keynes, ça a l'air de bien fonctionner quand il s'agit de guerre ou de crise. Mais alors maintenant, il y a d'autres économies qui... Alors, du point de vue du mécanisme des prix dans tout cela, l'évolution des prix et l'influence sur la société et sur ses développements. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que dans tous ces progrès énormes, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de gadgets? Vous parlez du téléphone mobile. Bon, la première idée a été de... on puisse communiquer avec sa famille immédiatement. Bon, moi, j'ai une belle-mère, elle ne meurt pas. Et d'autre part, je n'ai pas une belle-mère tous les jours pour téléphoner et rendre mon appareil rentable. Bien sûr, il y a des milliers d'usages qui sont différents. Mais voilà un exemple n'est-ce pas ? On a beaucoup de choses comme ça dès qu'on approfondit. Monsieur parlait de les pauvres et les riches. Bon, dans l'Empire romain, on en parlait déjà avec l'évaluation de Dioclétien. Et même avant, le blé qui venait d'Égypte, bon, il était destiné à une partie de la population. Bon, je m'arrête là, monsieur.
Sur le gadget, je crois que le succès même du téléphone mobile aujourd'hui montre que ce n'est pas un gadget. Juste pour la petite histoire, dans l'entre-deux-guerres, l'administration des PTT françaises faisait de la publicité pour convaincre les Français de s'équiper en téléphone. Il y avait un surplus de lignes et les Français n'avaient pas envie de s'équiper en téléphone parce qu'en fait, il y avait peu d'urbanisation, les gens vivaient à l'échelle du quartier et que le téléphone était peu utile. Dans les années 70, on a manqué dramatiquement de lignes téléphoniques. Il y avait 2 à 3 ans d'attente, car la vie urbaine avait changé et le téléphone était devenu absolument indispensable. Et c'est comme ça qu'en quelques années, on est passé à plus de 90% de taux d'équipement. Bien, il en est de même avec le succès du téléphone portable. Le téléphone portable, il y a 20 ou 30 ans, n'aurait eu aucun succès. Aujourd'hui, le téléphone portable a un succès car les changements sociaux qui le rendent utilisable ont déjà été opérés. Et même des grands producteurs comme Motorola ont été surpris puisqu'ils croyaient que le téléphone portable allait servir surtout aux cadres supérieurs et à certains groupes sociaux très limités. Et ils n'avaient pas vu que le développement, la transformation des modes de vie urbains était déjà telle, l'autonomie des individus, cette nécessité de maîtrise de son espace-temps était déjà telle que la société, je dirais, se jette sur cet instrument parce qu'il correspond déjà à ses modes de vie.